Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, c'est un grand entretien exceptionnel que l'on vous propose donc avec celui qui occupe l'un des postes les plus prestigieux de la République, le gouverneur de la Banque de France. Bonsoir François Villeroy de Gallo.
Bonsoir Julien
Merci
Bugier.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous publiez également un ouvrage remarqué qui s'appelle « Retrouver confiance en l'économie » aux éditions Odile Jacob. On en parlera évidemment avec vous ce soir. Alors peut-être un mot d'abord sur votre mission. La Banque de France, elle en a plusieurs des missions. Fabriquer des billets, on va en parler. Assurer la sécurité des moyens de paiement des Français et la stabilité monétaire. J'ai une question assez précise à vous poser qui fait écho à des questions que nous ont posées des auditeurs. Et notamment la question que nous a posée Yves. Vous allez comprendre pourquoi je vous la soumets. On écoute Yves.
Je m'appelle Yves et j'ai 80 ans. Quel est le rôle exact de la Banque de France puisqu'il existe maintenant une banque européenne? C'est la question que je pose effectivement au gouverneur. J'imagine qu'il a beaucoup d'activités, mais on ne sait plus très bien lesquelles maintenant.
Voilà, bon, il y a un peu de malice dans cette question.
Non, mais c'est une question tout à fait légitime à laquelle je vais répondre.
Voilà, je complète
c'est,
un peu.
C'est d'ailleurs pour tout vous dire une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, pour expliquer ce que nous faisons, les femmes et les hommes de la banque. Je précise que c'est 9500 personnes sur l'ensemble du territoire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toujours une Banque de France alors qu'il y a l'euro? Parce que l'euro repose sur un système fédéral. C'est-à-dire qu'il y a une Banque centrale européenne à Francfort, dont la présidente est Christine Lagarde, une Française, et puis 19 banques centrales nationales correspondant aux 19 pays de l'euro qui font une bonne partie du travail, dont la Banque de France. Et donc, notre travail, c'est essentiellement deux choses. Depuis d'ailleurs que nous avons été créés, c'est la monnaie. Et le fait que les Français aient une bonne monnaie, l'euro aujourd'hui, ça veut dire aussi imprimer les billets, vous l'aviez dit. Nous le faisons à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand.
Toutes les banques nationales impriment des billets?
Ah non, alors il se trouve que la Banque de France a la plus grosse imprimerie de billets de ce que nous appelons l'eurosystème, ce système fédéral.
C'est pas pour ça qu'on est plus riche que les autres, mais on en imprime plus que les autres.
Non, on a un outil très compétitif dans lequel on investit. Et puis il y a une deuxième grande mission depuis l'origine. La Banque de France a été créée en 1800 par Bonaparte, qui est de veiller à ce que les Français et les entreprises aient accès à des financements dans des conditions sûres.
Oui.
Donc nous surveillons les banques et les assurances. Et puis nous avons toute une mission sur le terrain, sur la gestion du surendettement, l'accès des PME au crédit. Et donc beaucoup de ceux qui nous écoutent probablement ont affaire à la Banque de France ou peuvent recourir à nos services.
Et vous êtes d'ailleurs vous-même membre du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne.
Absolument.
Vous participez.
Pour tout vous dire, j'avais une réunion du Conseil des gouverneurs aujourd'hui même. Ça se passe en visio, mais je raconte un peu ça dans ce livre. C'est autour de la table. Chacun apporte ses idées. C'est aussi ce qu'apporte la Banque de France.
Alors, l'une des grandes missions de la Banque Centrale Européenne, c'est évidemment la maîtrise de l'inflation. Je voudrais vous entendre sur ce point, parce qu'il y a une inquiétude en ce moment sur le risque inflationniste, c'est-à-dire voir les prix grimper très vite et très fort. C'est la crainte que relaient beaucoup d'économistes, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. D'abord, est-ce que vous y croyez, vous, à ce risque inflationniste?
Non, il n'y a pas de risque inflationniste en Europe. Alors, vous l'avez dit, il y a un débat aux États-Unis. Et la situation est un peu différente aux États-Unis, parce que la reprise après Covid y est plus avancée. Et puis, comme vous le savez, le nouveau président et l'administration Biden viennent de mettre en place un paquet budgétaire absolument massif, 1 900 milliards de dollars. Certains économistes disent qu'il est surdimensionné, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais ce soutien peut provoquer une accélération des prix aux États-Unis. Et après, il y a tout un débat sur si cette accélération va être temporaire ou durable. Mais la situation de l'Europe est complètement différente. Nous sommes au début de la reprise, on en parlera sans doute. L'inflation en France reste inférieure à 1%, à 0,9%. Comme vous le savez peut-être, je le précise pour nos auditeurs, notre objectif, c'est 2% à moyen terme. On est encore en dessous, donc on va maintenir des taux d'intérêt très bas.
Mais beaucoup d'économistes quand même disent, notamment chez nous en France, que cette inflation en Europe, elle peut atteindre les 2% et en France en particulier assez rapidement. Alors, ça ne sera pas
dans les prévisions de la Banque de France et de la BCE, l'inflation dans les deux ans qui viennent passerait un peu au-dessus de 1%, mais il y aura peut-être des passages temporaires à 2. Mais en moyenne, nous ne voyons pas de risque de surchauffe inflationniste.
L'objectif secret,
c'est très important, ça veut dire qu'on va maintenir des taux d'intérêt bas et des conditions de financement très favorables, y compris pour les crédits immobiliers ou les PME.
C'est d'ailleurs l'objectif non avoué de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir une inflation aux alentours de moins de 2%, en tout cas moins de 2%.
Notre objectif, ce point est très important. Alors vous savez, quand on fait le métier que je fais, on essaye d'être précis dans les termes. Notre objectif, il est tout à fait explicite. C'est d'avoir une inflation en moyenne proche de 2%.
Bien. D'ailleurs, il y a un élément intéressant, je pose la question un peu par esprit d'escalier, mais la BCE nous dit qu'il n'y a jamais eu autant de billets en circulation alors qu'on les utilise de moins en moins pour payer. Mystère. Où sont ces billets?
Alors, oui, est-ce que ça veut dire vous avez raison, c'est un paradoxe.
Est-ce que ça veut dire que les Français les cachent sous les matelas?
Et là aussi, dans le travail que fait la Banque de France, on a parlé de l'impression des billets, mais il y a ensuite la distribution des billets sur l'ensemble du territoire par notre dispositif de caisse. Et ce que nous constatons, c'est que le billet est de plus en plus détenu, mais de moins en moins utilisé dans les transactions. C'est le développement du paiement sans contact qu'on a vu aussi avec la crise Covid. Et donc, c'est une encaisse de précaution qui reste chez les ménages européens et aussi, et ça semble être une part très importante de la demande de billets, en dehors de la zone euro, que ce soit en Europe centrale, en Afrique du Nord. C'est d'ailleurs une des preuves du succès de l'euro, c'est que les citoyens en dehors de l'euro, les habitants des autres pays, veulent détenir notre monnaie. Alors, parce qu'ils ont confiance.
Plein de sujets à aborder. On va marquer une première pause. Le contexte sanitaire, l'impact économique, les prévisions de croissance, la question du remboursement de la dette. Et puis, je voudrais aussi votre regard sur la stratégie française. Vous m'en parlerez. Une petite question, tiens, comme ça, en passant. Qu'est-ce qu'a fait la Banque de France de tous ces francs qui ont arrêté de circuler il y a 10 ans?
Ah, ils ont été largement détruits. Parce qu'il y avait des billets, mais tous ceux qui en détenaient ont pu les échanger contre des euros.
Mais ils ont été détruits, ils n'existent plus.
Ah, vous savez, un billet de banque, c'est comme toute chose, ça vieillit aussi physiquement. Donc vous ne pouvez pas le garder indéfiniment.
Bien, merci, vous restez évidemment avec nous. On marque une pause, on se retrouve avec vous, monsieur le gouverneur de la Banque de France, dans quelques instants. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30 et ce soir, vous l'avez compris dans le débat du Club des Idées, c'est un grand entretien exceptionnel que l'on vous propose avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. On parlait à l'instant de l'impact économique, de l'inflation, évidemment, de la crise sanitaire. Est-ce que l'aggravation de la situation sanitaire qu'on connaît en ce moment depuis quelques jours va amputer le redémarrage de l'économie et donc remettre en cause vos prévisions de croissance notamment ?
Alors, un petit mot sur nos prévisions de croissance que nous faisons, je précise, de façon totalement indépendante.
Absolument.
La Banque de France est indépendante du gouvernement ou de toute pression politique. On a connu l'année dernière la pire récession depuis la guerre, à moins 8% en France. On devrait connaître cette année un fort rebond. Notre prévision publiée il y a une semaine, c'est plus 5,5% de croissance. Ça serait la plus forte croissance depuis le premier choc pétrolier, depuis 1973.
Mais qui arrive après une telle baisse.
Oui, mais je crois que c'est important de voir qu'il y a cette capacité de rebond, et ça serait d'ailleurs une croissance nettement supérieure à la moyenne européenne. Et
c'est vrai, c'est très important de le noter.
Notre estimation au jour d'aujourd'hui, je le dis à votre micro, c'est que les dernières restrictions ne remettent pas en cause cette prévision, parce qu'elle était relativement prudente. Nous avions prévu un maintien des restrictions sanitaires à peu près jusqu'à juin, et ensuite une levée progressive.
Mais donc vous aviez globalement anticipé sur de nouvelles mesures sanitaires, parce que l'Île-de-France...
On n'avait pas anticipé de nouvelles mesures sanitaires, mais je crois que nous avons collectivement appris à travailler en nous protégeant. Alors, il y a des secteurs qui souffrent beaucoup, évidemment l'hébergement, restauration, le tourisme, l'aéronautique, et il y a beaucoup d'entreprises pour qui ce n'est pas facile. Mais globalement... D'abord, les dispositifs publics de soutien fonctionnent bien et il y a heureusement beaucoup de secteurs qui sont assez proches de la normale dans l'industrie, dans le bâtiment et beaucoup de services.
Parce que l'Île-de-France, qui est aujourd'hui en partie confinée, avec la fermeture à nouveau des magasins non essentiels, ça représente, je crois, un tiers de l'économie française. Un tiers de l'économie française, c'est évidemment colossal.
Ça dépend des mesures, c'est entre 20% et un tiers. Mais heureusement, l'Île-de-France n'est pas totalement arrêtée sur le plan économique. La plupart des franciliens continuent à travailler en télétravail, ce qui est... Il faudra d'ailleurs revenir sur un des progrès de cette crise, c'est que nous avons appris à mieux utiliser le numérique.
C'est un progrès, mais, selon vous ? Le télétravail est un progrès ?
Vous posez une question, évidemment, qui nous touche tous. Je crois que c'est un progrès dès lors que ça redevient une liberté. Aujourd'hui, c'est une obligation. Mais il est clair qu'après, on télétravaillera plus qu'avant. Moi, je développe dans ce livre le fait qu'après la crise, je crois que nous avons l'opportunité... Ça n'enlève rien de la difficulté de la crise. Mais nous avons l'opportunité de reconstruire une économie meilleure. Je souligne trois dimensions. Plus numérique, ça veut dire plus de liberté. Plus écologique, ça veut dire plus de qualité de vie. Et puis plus qualifié, il ne faut pas qu'on oublie la bataille des compétences pour les jeunes, l'apprentissage, la formation professionnelle. Ça, c'est la clé de la croissance française.
Je vous pose cette
question. Mais il y a ces trois plus possibles.
Ouais, je vous pose cette question, François Villeroy de Gallo, parce que je sais que la question de l'emploi est très importante dans votre état d'esprit depuis toujours.
Et, oui, et la formation professionnelle.
Et la formation professionnelle. Et c'est vrai qu'on s'apprête à vivre une crise sociale sans doute très très importante. L'INSEE a annoncé quasiment 1 million de destructions d'emplois sur l'ensemble de l'année, et peut-être plus à venir. Les plans sociaux se multiplient. Est-ce que le télétravail, à l'issue de cette crise, ne va pas détruire des emplois? C'est-à-dire que des entreprises sont en train de s'apercevoir qu'ils ont peut-être des salariés qui ne servent pas autant qu'ils le pensaient.
Il y a deux choses différentes dans ce que vous dites. Il y a d'abord qu'il y a la photo aujourd'hui en termes d'emploi et de chômage. Dans les prévisions que nous avons publiées la semaine dernière, les choses se passent moins mal sur l'emploi qu'on ne pouvait le craindre. Et le taux de chômage devrait rester sous les 10% tout au long de l'année 2021 et puis ensuite recommencer à baisser. Donc l'économie française a perdu...
Sous les 10%?
Sous les 10%.
Sous les 10%.
Oui, oui. 9 et quelques. C'est trop, bien sûr.
Oui.
Mais traverser la pire récession de l'après-guerre en ayant une montée très limitée du chômage, je crois que c'est une...
C'est grâce aux mesures d'accompagnement, ça?
Les mesures d'accompagnement ont beaucoup aidé, en particulier le chômage partiel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les entreprises ont diminué leur nombre de salariés moins qu'on ne le craignait. Par contre, elles ont diminué le nombre d'heures. Ça, c'est l'effet du chômage partiel. Mais au fond, le dispositif public, il a permis, un, de maintenir un maximum d'entreprises à flot, et à l'intérieur de ces entreprises, de maintenir le lien avec leurs salariés. Ça, je crois que c'est deux acquis. Alors ensuite, après... Je ne pense pas que le télétravail diminuera ou détruira des emplois en soi. Oui. Maintenant, on va retrouver en sortie de crise, ce qui est la clé du succès français, c'est les compétences. Si vous rappelez la situation avant la crise, la France avait créé 1 million net d'emplois, je le souligne beaucoup dans ce livre, quelquefois nous sommes trop modestes sur nos succès, entre 2016 et 2019, 1 million net d'emplois. Et on l'a peut-être oublié, le principal frein à l'époque à la croissance française, c'était les difficultés de recrutement des entreprises. Oui. Nous avions encore beaucoup de chômeurs, mais les entreprises n'arrivaient pas à recruter. Alors là, il y a une évidence, c'est la bataille des compétences.
Alors,
c'est aussi, d'ailleurs, la meilleure façon de donner des chances aux jeunes, y compris les plus défavorisés, c'est de les former.
François Villeroy de Gallo, la clé de cette relance, on sait que c'est la consommation. Faire consommer les Français, ça a toujours fonctionné comme ça avec la croissance française. Et il y a cette épargne qui dort aujourd'hui sur nos comptes, qu'on estime à 200 milliards d'euros. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour inciter les Français à consommer, si vous aviez une baguette magique ou si le gouvernement en avait une? Et puis, il y a cette idée qui commence à émerger, cette petite musique, selon laquelle il faudrait taxer l'argent qui dort. C'est une bonne idée, ça, de taxer l'argent qui dort?
Alors d'abord, je n'ai pas de baguette magique, Julien Bugier, je le dis, mais je crois que c'est important de répondre aux questions des Français et de partager un certain nombre de réalités économiques. Le volume de cette épargne supplémentaire Covid, c'est un peu moins que les 200 milliards que vous avez cités. C'est 110 milliards à la fin de 2020 et on devrait ajouter la moitié cette année, en 2021, donc compter 160. C'est beaucoup. C'est une espèce de réserve de croissance de 6% du PIB. Ensuite, vous l'avez dit, pour qu'elle se transforme en consommation, la clé, c'est la confiance des particuliers, la confiance des consommateurs. J'ai appelé, c'est le titre de cet ouvrage, « Retrouver confiance en l'économie ». On va passer du soutien public à la confiance privée. Alors, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui allons décréter la confiance des Français. C'est eux qui décideront. Je crois que l'élément clé, ce sera la levée des restrictions sanitaires, l'amélioration de la situation. Mais l'absence de taxation est un élément très important de cette confiance. Je crois qu'il ne faut pas augmenter les impôts en France. Ils sont déjà suffisamment élevés. Au passage, j'ajoute... que je crois qu'il ne faut pas les baisser non plus. Oui. Nous n'avons plus les moyens de ces baisses d'impôts non financées. Mais la stabilité fiscale peut faire partie de la confiance.
Très intéressant ce que vous dites, François Villeroy de Gallo, parce que ça nous emmène sur la question de la dette. Cette dette, vous dites qu'il faut la rembourser, qui dépassera d'ailleurs les 120% du PIB en 2021. Certains experts prédisent même 145% du PIB d'ici 25 ans. C'est ce qu'avait dit Jean Arthuis avec sa commission d'experts indépendants. Ça représente 2 800 milliards d'euros. Il faut que les Français se rendent compte ce que ça représente. 2 800 milliards d'euros. Donc c'est une dette qu'il faut rembourser parce que c'est la règle du jeu, dites-vous. Alors comment est-ce qu'on la rembourse cette dette? Si, un, on n'augmente pas les impôts, si la croissance reste dans des zones de 1, 2, même 2,5%, la croissance, ça n'avait jamais permis de rembourser une dette, donc ça veut dire qu'il faut réduire les dépenses publiques. Où est-ce qu'on va le chercher cet argent?
Il faut combiner trois ingrédients. Il faut d'abord en exclure un, c'est l'illusion de l'annulation. Parce que là aussi, c'est clair, la confiance, hein, je reviens tout de suite sur le mot. Imaginez, Julien Bugier, que vous me prêtez 100 euros et que moi je vous dis, là, comme ça...
Mais mes actifs, mes actifs ne sont pas ceux de la Maison France.
Oui, enfin, quelqu'un à qui on ne rembourse pas sa dette, il ne vous prête plus pour l'avenir. Donc ça serait très grave pour la France.
Donc il faut
combiner trois ingrédients, c'est le temps, la croissance et l'efficacité des dépenses publiques. Le temps, c'est qu'il faudra du temps pour se désendetter. Je crois qu'il faudra commencer une fois qu'on sera sorti de la crise Covid, c'est-à-dire après 2022. Il faudra se donner une dizaine d'années. Il faut se donner une perspective assez longue. Parce que nous avons quelquefois un peu de mal à faire dans notre débat.
Mais qui paiera? Qui paiera?
Alors, qui paiera, c'est l'ensemble de l'économie française. Le deuxième composant, c'est justement la croissance qui va rapporter des recettes. Et on parlait tout à l'heure de la formation professionnelle ou d'autres réformes, elles vont augmenter la croissance. C'est pour ça que c'est important de faire des réformes.
Vous savez très bien que malgré la croissance depuis 75 ans, depuis 1975, on est en déficit chronique.
C'est parce qu'il a manqué le troisième ingrédient, c'est qu'il faut qu'on recherche une meilleure efficacité de nos dépenses publiques. La France partage avec ses... Si on reste une minute là-dessus, la France partage avec ses voisins européens un modèle social auquel moi je suis profondément attaché, je le dis dans ce livre, là je dis mes convictions, et je crois que la plupart de nos concitoyens, c'est un bon modèle, avec des services publics, avec de la redistribution, avec la sécurité sociale, c'est pas le même modèle que les Américains, ou a fortiori des pays émergents. Gardons-le. Notre problème, c'est pas notre modèle social, c'est qu'il nous coûte beaucoup plus cher que celui de nos voisins européens. Vous allez en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, même en Suède, ils ont à peu près les mêmes prestations, mais ils ont beaucoup moins de dépenses publiques que nous.
Et alors, donc, où est-ce qu'on coupe dans les dépenses?
Il faut là-dessus, pour regarder l'ensemble des chiffres, il faut que nous arrivions à freiner la croissance de ces dépenses. Je ne dis pas du tout qu'il faut les couper.
Oui.
Je cite un certain nombre de chiffres dans ce livre. Si nous passions d'une croissance d'un peu plus de 1% par an à 0,5% ou encore mieux 0, là, nous commençons à nous désendetter. Donc, vous voyez, je ne parle pas de baisse. Après, ce n'est pas à nous de choisir où se passent les économies. C'est un débat politique légitime. Je peux juste vous dire que c'est possible de faire fonctionner un service public avec des coûts moins élevés. J'ai une bonne nouvelle pour les Français, c'est que la Banque de France rend plus de services aujourd'hui tout en leur coûtant moins cher.
Vous voyez,
c'est possible.
Et vous connaissez bien l'administration puisque vous avez aussi travaillé au cabinet du ministre de l'économie.
J'ai passé beaucoup d'années dans le service public, mais aujourd'hui, voilà, je suis fier de vous dire que les hommes et les femmes de la Banque de France, ils sont arrangés pour être plus efficaces.
Bien, on en parlera justement de l'efficacité de l'administration, 19h40. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on poursuit notre entretien exceptionnel avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Entretien passionnant, on a encore plein de sujets abordés. Alors, on n'a pas toute la nuit, mais on a encore quelques minutes à passer ensemble, François Villeroy de Galhau. Et vous publiez ce livre, Retrouver confiance en l'économie, qui est une ode aussi à la pédagogie pour l'économie. Il faut, dites-vous, expliquer l'économie aux Français. Il y a un besoin et une envie de pédagogie. Alors, justement,
il faut répondre à leurs questions. Les questions des Français sont légitimes. L'économie, c'est pas le monopole des économistes ou des spécialistes.
Et puis, ça nous concerne dans notre quotidien aussi.
Bien sûr.
Alors, on a posé la question à des Français. On s'est promené dans les rues cet après-midi et on leur a dit « Est-ce que vous savez à quoi sert la Banque de France ?» Vous allez voir les réponses.
Non, je connais pas du tout la Banque de France. Enfin, de nom, forcément, comme tout le monde, mais son rôle...
Qui n'a pas entendu parler de la Banque de France depuis le 19e siècle, au moins la fin du 19e siècle? C'est un monument français pour moi, voilà.
Elle joue un rôle de surveillance des marchés, hein, et aussi de la monnaie. Mais elle a certainement d'autres attributions que j'ai oubliées.
Quand vous avez beaucoup de dettes et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous pouvez faire un dossier auprès de la Banque de France. On vous permet de repartir sur un meilleur pied.
Il me semble que la Banque de France doit obéir aux ordres de la Banque européenne. Voilà, c'est à peu près la seule chose que je sais en fait sur la Banque de France. Sinon, je vois pas trop exactement à quoi ça sert.
Voilà, propos recueillis par Zoé Pallier. Pas mal quand même,
non,
François
Villeroy de Galhau. Non, je trouve quand on ajoute ces diverses réponses, on a à peu près le kaléidoscope de nos missions. Je vais peut-être en ajouter une à laquelle nous tenons beaucoup et qui est récente. C'est ce qu'on appelle l'éducation économique et financière. Et ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions économiques. Il y en a encore plus dans ces temps de crise. Et puis chacun a des questions budgétaires aussi sur ses produits financiers, oui. Son épargne. Et nous avons beaucoup développé cette action depuis 2016. Nous avons créé une cité de l'économie à Paris, qui est magnifique, malheureusement fermée pour l'instant. Mais son site est ouvert et tous ceux qui veulent voir l'économie de façon un peu ludique peuvent y aller. Il y a aussi le site de la Banque de France, il y a des ABC de l'économie. On a fait un site spécial Covid et l'économie. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est notre devoir démocratique aussi. La politique monétaire, même qui est le cœur de notre métier, ça peut être vu comme très austère et compliqué, mais j'essaie de l'expliquer dans ce livre. Il n'y a aucune raison que nous ne fassions pas l'effort d'expliquer cela de façon simple.
Bien.
Alors c'est un petit effort hein, pour les équipes de la Banque de France, mais j'espère que tous ceux qui iront voir sur les sites ou accessoirement qui liront ce livre considéreront qu'on a réussi.
Bien. Alors, vous parliez du fonctionnement des salariés de la Banque de France. Vous disiez juste avant la pause, on a appris à mieux travailler. Et j'ai une question pour vous qui dépasse un peu le cadre de vos fonctions de gouverneur de la Banque de France. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été directeur de cabinet à Bercy, vous connaissez bien évidemment les rouages de l'administration et ses blocages. Vous avez été aussi banquier dans le privé, donc vous avez les deux casquettes. Est-ce que vous diriez que la France est aujourd'hui grippée par sa suradministration ? On a parfois un peu l'impression, François Villeroy de Gallo, qu'on marche sur la tête. Alors, il y a eu l'épisode des masques, il y a aujourd'hui l'épisode des autotests, oui. Il y a l'épisode des vaccins, Sanofi, au pays Pasteur, qui n'a pas réussi à trouver son vaccin.
Je vais vous arrêter tout de suite. J'aime pas le discours, je vais le dire très directement, c'est-à-dire que le problème de la France, c'est l'administration. La France a la chance d'avoir des fonctionnaires, et pas seulement les hommes et les femmes qui travaillent à la Banque de France, qui sont en général compétents, qui sont honnêtes et qui sont loyaux. Ça fait beaucoup de qualités. D'ailleurs, à l'étranger, on considère en général que le service public, c'est un atout français. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on ne considère pas qu'il y a d'un côté la sphère privée qui est vouée à la performance, et puis de l'autre côté, le service public qui serait voué à l'immobilisme. Service public, performance, innovation, c'est des mots qui peuvent aller
et
ensemble.
Même le président de la République avait même lui-même semblé envoyer ce signal en disant « moi je vais faire bouger les choses parce que c'est vrai qu'il y a des blocages dans l'administration française et que parfois il y a des lourdeurs ».
Oui, je crois qu'il faut libérer l'initiative des managers, il faut leur confier des responsabilités, il faut leur confier aussi des enveloppes budgétaires qui peuvent être exigeantes mais qu'ensuite ils gèrent le mieux possible. C'est tout ça que nous avons fait à la Banque de France.
Et
moi je crois profondément, alors je vais vous dire vraiment ma conviction tripale si vous me permettez le mot, je crois que le service public peut être un atout de la France. D'ailleurs quand vous regardez dans notre histoire, on parlait de Bonaparte tout à l'heure, vous prenez l'époque du général de Gaulle, le service public s'était considéré comme un atout français. Ben, à nous de le faire vivre, de le rendre performant, innovant. C'est ce que nous essayons de faire à la Banque de France, pour que le service public soit à nouveau un atout de notre économie. Mais pointons pas du doigt l'administration ou les fonctionnaires qui seraient responsables des problèmes français.
Alors c'est une question qu'on vous pose régulièrement, mais qui fascine. Il y a une réserve secrète à la Banque de France, c'est la réserve d'or.
2400.
Mais elle n'est pas secrète. Elle est bien protégée, on va dire. Elle est bien protégée, on va dire. Secrète car elle suscite des fantasmes.
Non, elle est bien protégée, ça,
2436 tonnes d'or situées, je crois, à 27 mètres sous terre. C'est le quatrième stock national au monde derrière les États-Unis. Dites-moi si je dis une bêtise. L'Allemagne et l'Italie. Or, depuis les années 70, l'or n'a plus tout à fait le même rôle monétaire. Pourquoi conserver tout cet or ?
Alors, l'or a joué un rôle historique très important, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une garantie. Mais il ne joue plus de rôle actif. Donc cet or, il appartient à tous les Français. Hein. Il n'appartient pas à moi ou aux salariés de la Banque de France, évidemment. 2436 tonnes, je vous le confirme, ça fait partie...
Mais ça sert à quoi ?
Ça fait partie des garanties qui inspirent confiance en la France. Il se trouve que la valeur de cet or ne cesse de s'apprécier parce que le cours de l'or a monté,
c'est
particulièrement
vrai.
Dans la crise de l'or. Donc le garder n'est pas un mauvais placement.
Et ça peut pas, pardon ma question un peu naïve, mais ça peut pas permettre de rembourser un petit bout de dette parce que j'ai vu que ça correspondait à 5% du PIB, donc c'est déjà...
Oui, enfin que c'est exactement comme pour un particulier. Si pour rembourser vos dettes, vous vendez vos bijoux de famille, vous n'êtes pas enrichi pour autant. Hein. Mais je crois que la plupart, tous les pays que vous avez cités gardent leur stock d'or parce que c'est un bon placement aujourd'hui et parce que ça fait partie de la confiance. Ça joue un rôle symbolique très important. Hein. C'est vrai que très souvent, on m'interroge sur la Banque de France. Je vais vous donner un chiffre très simple. J'ai dit que la Banque de France était 9500 hommes et femmes engagés sur le terrain, aux côtés des Français, avec les entrepreneurs. La garde de l'or dans ces 9500, c'est 5 personnes.
5 personnes.
Donc c'est tout à fait marginal. Et pour autant, l'or est en grande sécurité, parce qu'il y a toute une série de dispositifs mécaniques et informatiques pour protéger l'or des Français.
Vous êtes un bon gestionnaire, évidemment, François Villeroy de Gallo. J'ai une dernière question à vous poser. Je recevais l'économiste Daniel Cohen à cette même place, qui a publié un ouvrage assez remarquable sur le rapport des Français à l'argent. Et on y apprend que les Français, plus que les autres Européens, estiment que pour être heureux, il faut avoir plus d'argent que le voisin. Comment vous, vous expliquez cet état d'esprit qui, visiblement, est là encore très français ?
Nous sommes sensibles à l'égalité. Je crois que Tocqueville a écrit il y a 2 siècles que l'égalité, c'était une passion française. Je suis personnellement extrêmement sensible aux inégalités. Je crois qu'il faut lutter contre les inégalités excessives. Et c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'égalité des chances et des jeunes. Après, le modèle social européen est une chance pour ça. Et si vous me permettez de conclure là-dessus, parce que c'est le dernier chapitre de mon livre. Et là, je dois dire que si je voulais exprimer un souhait, c'est que on voit l'Europe comme un modèle hérité du passé qui doit un peu raser les murs entre les États-Unis et la Chine sur les deux puissances émergentes. Non, je crois que ce que l'Europe porte avec son modèle social et maintenant environnemental, le reste du monde en a besoin. Le monde de 2021, totalement chaotique. Regardez les contestations de la jeunesse. Ils veulent plus d'égalité, ils veulent plus d'environnement. C'est l'Europe qui a la meilleure réponse. Donc portons ce drapeau haut et fort, mais tout en étant efficace dans notre économie et dans nos services publics.
Vous aviez écrit un ouvrage d'ailleurs sur l'Europe, me semble-t-il.
Oui. Moi, je suis un Européen convaincu. Je suis un Européen de pratique tous les jours. Le Conseil des gouverneurs, etc. Mais l'Europe, c'est notre meilleure chance dans ce monde qui a besoin de nous.
Bien, merci infiniment. C'était passionnant. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France et auteur du livre passionnant. Vous en avez beaucoup parlé ce soir. Retrouvez Confiance en l'économie aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation.